Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste, midi 13h,
17h, 18h, agenda,
nouveautés discographiques,
interviews, informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Le souffle du nez en même temps.
Là, c'est entre chaque
mois. Je vais
découvrir
le refus.
Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure, avec moi, les citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio,
autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste,
la radio,
vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
En effet, vous êtes sur Divergence FM et nous sommes le vendredi 14 mai. Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose de cochon? Je n'espère pas. C'est parti pour 50 minutes d'actualité culturelle aujourd'hui. À l'actualité, au menu du jour, eh bien, ce sera de théâtre qu'on parlera en première partie avec Sainte-Jeanne des Abattoirs, une pièce de Bertolt Brecht, comme vous vous en souvenez sûrement, qui est aujourd'hui mise en scène par le Principe Théâtre. On parlera de ça un petit peu plus tard dans 20 minutes. Et puis en deuxième partie de C'est tout ce poste, ce sera Habib Dekraoui qu'on recevra pour parler du festival Arabesque. En effet, cette cinquième rencontre des arts du monde arabe, eh bien, se distille le domaine d'eau à partir du 21 mai. N'y manquez pas, on en parle en deuxième partie. Mais sans plus attendre, je suis sûre que vous voulez trouver un lieu de consolation à votre lit que vous quitterez aujourd'hui. Ce sont les bons plans, les voici, les voilà. Et je vais reprendre un ton un peu plus normal puisque ce sont les bons plans qui arrivent. Alors vendredi 14, quoi faire en ce vendredi 14? Eh bien retrouvez peut-être Saez si vous l'avez aimé dans ses anciennes années. Il sort son nouvel album J'accuse. En première partie, vous retrouverez Guillaume Favret à 20h au Zénith. Il vous en coûtera 30 euros tout de même. Sinon, vous avez de quoi vous envoler vers des horizons lointains avec de la musique du monde. Memento interprète prélude à la chute d'un hydronef. Le titre me plaît, ça risque d'être sympa. C'est avec 6 musiciens, Mélanie Arnal au violon et au chant, Vincent Crépin aux guitares, Philippe Lianelsi à la basse, Christophe Monté aux percussions et aux machines et Jean-François Olivier au vibraphone. Ça risque de vibrer donc à 20h45 au Théâtre de la Plume, 6 rue Guillaume Pélissier pour un tarif oscillant entre 7 et 10 euros. Les férus de jazz trouveront leur compte également dans le festival de Lindy Hop avec Uncle Boom Boom Boom, groupe de jazz des années 30-40 qui vont revenir dans un passé clinquant à partir de 20h30 à l'Apollo Jazz Café, 129 avenue de Palavas, et c'est gratuit. On l'aime beaucoup puisqu'il tortille des hanches, Tio Pepe. Le groupe de musique latino sera ce soir à 21h30 au Trinque Fougas, route de Monde. Il vous en coûtera 5 euros par personne sur l'addition. Bien sûr, vous aimez onduler sur le dance floor, on vous connaît pour ça. L'électro, c'est pour vous. Comics ce soir, Bass Music in Gotham City, organisé par le collectif Urban Bass, avec au platine DJ Az, Samili, Abstract et Coccinelle. C'est à 21h à l'Antirouille 12 rue Anatole France pour une petite entrée à 2 euros seulement. Vous avez envie de soleil? Moi aussi. Foro Ben TV, le groupe de musique brésilienne, vous fera secouer vos miches à 21h au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, et il ne vous en coûtera que 5 ou 7 euros. Si vous avez envie d'un peu plus de violence, Motorhead est là. Groupe de rock'n'roll de Lyon bien connu, il sera accompagné de The Ascendant Group Montpellierin. C'est à 20h30 au bar Up and Down, où on boit de la bonne bière. 5 rue du Pilat Saint-Gély, l'entrée est libre. Rock'n'roll parti également avec Chiraf, Stony Brook et The Dirty Sinners. C'est à 21h au Mojomatic, un rue Cambacérès, l'entrée est à 5 euros. Vous l'aurez compris, en ce vendredi, c'est la musique qui prime, mais tout de même un peu de danse avec du contemporain et désinvolte. Une chorégraphie de et interprétée par Chloé Dehu et Christophe Brombin. C'est à 20h à l'atelier 1 bis rue Étienne Antoine, c'est contemporain, nous dit-on. La réservation est obligatoire au 04 67 58 37 49. 04 67 58 37 49, dites désinvolte et vous entrerez pour une entrée à 4 ou 5 euros. Vous aimez évoluer dans les rues de manière surprenante. Le tango, c'est fait pour vous. Soirée Milonga de Los Maestros avec leur show Surprise, bal animé par DJ Cyberchris dans le cadre du festival de tango argentin. On vous apprendra comment serrer une belle meuf en dansant. C'est à 21h30 à la salle Fernand Pelloutier, place Zeus à Antigone. Bien sûr, nous n'oublierons pas Brecht. Avec Sainte-Jeanne des Abattoirs, c'est à 20h ce soir au Trioletto et c'est repris par le Prime Sautier Théâtre. Je n'en dis rien puisqu'on en parle un peu plus en première partie de ce Tous au Poste. Voilà, c'est la fin de ce bon plan. Je ne vais pas enlever cette sublime voix qui vous fait vibrer. Tout de suite, eh bien, on écoute de la sublime musique puisque c'est Manuel Plaza, notre programmateur musical, qui joue de la basse. Il s'appelle Barbara Truc. Dans ce groupe, ils viennent de sortir leur dernier album, The Soul of a Man Under Socialism. Classé en rock, psychédélisme, indie, où vous voudrez, peu importe les étiquettes, c'est bon pour les fringues. On écoute tout de suite Open My Mind.
Thank you.
Et en première partie de ce Tous au poste, j'ai l'agréable plaisir de recevoir Antoine Vélins de la compagnie Prime Sautier ainsi que ses élèves. Bonjour à vous tous et bienvenue, je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour Léna, étudiante.
Et Prime Sautier.
Et Prime Sautier.
À tes temps perdus, voilà.
Bah, Clément, étudiant, pareil. Puis dans les ateliers.
Bah, Fanny, pareil, étudiante et Prime Sautier.
Et puis Antoine, co-metteur en scène pour le Prime Sautier Théâtre et animateur donc, de cet atelier étudiant pour le Crous, avec Virgile Simon, qui n'est pas là aujourd'hui.
Puisqu'il travaille.
Voilà.
Oui, il y a des gens qui travaillent. C'est important.
Oui, surtout aujourd'hui.
Alors hier, vous représentiez un texte de Brecht, Sainte-Jeanne des Abattoirs, un texte qui n'est pas facile quant à la transmission au public, puisque c'est assez ardu, c'est un texte long, c'est un texte qui, en tout cas, fouille une période aussi historique, un contexte historique de révolte dans les usines. Pourquoi avoir fait le choix de ce texte? Et puis on va présenter Brecht aussi, je vais te laisser le soin de présenter Brecht, Antoine.
Ouais, ouais, super. Non, mais déjà, sur le choix de ce texte, moi, ce qui m'a beaucoup plus dans le texte, c'est justement que c'est un texte qui fait plus d'une centaine de pages et qui est extrêmement dense. Et avec Virgile, justement, on s'intéresse beaucoup à ce genre de texte où il y a une vraie langue et où la densité des informations contenues à l'intérieur de ce texte pose des problèmes de transmission, justement. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est vraiment le premier constat de base quand on choisit un texte pour des ateliers, c'est de trouver une matière qui va nous permettre de vraiment la travailler tout au long de l'année et de chercher ensemble, avec les étudiants sur le plateau, des solutions à ces problèmes textuels et de trouver, de répondre comme ça à la demande par le plateau. Et là, en plus, c'est un texte qui est très, très long, donc ça joue beaucoup sur la longueur, qui est très complexe, puisque ça parle de religion, ça parle aussi de syndicats. Donc, c'est vraiment des ressorts très complexes autour et sur le capitalisme. Et voilà, la grande question, c'était comment représenter cette parole, surtout avec des étudiants qui sont peu aguerris au travail à l'usine, on va dire, ou telle qu'on... cette image d'Épinal, un peu, qu'on a de l'ouvrier. Donc, c'était un texte qu'on avait envie de prendre, justement, à hauteur d'étudiants et de surtout pas trafiquer ça. Donc on l'a laissé dans sa longueur, on n'a rien coupé. On a rajouté même les didascalies, histoire de complexifier encore plus le tissu textuel et d'en faire vraiment plus qu'un spectacle, une expérience en tout cas, quelque chose qui se transmet, puisque Brecht, sa grande problématique, c'est qu'est-ce qui peut sauver l'homme si ce n'est l'homme. Et on avait envie de tenter ce pari de n'avoir rien sur le plateau, si ce n'est des corps en mouvement, et puis de s'adresser aux spectateurs avec toute la complexité de ce texte.
Et donc justement, la complexité de ce texte, elle est évidente, elle est difficile peut-être aussi à transmettre dans le travail avec tes élèves. Alors là, je m'adresse aussi à vous trois, les Prime Sautier, étudiants. Comment vous avez pu le recevoir, ce texte-là, très dense, très lourd?
La première fois qu'on l'a lu, je crois que personne n'a compris la pièce, on a tous eu peur, on est tous revenus en disant « c'est trop long, on n'y arrivera jamais, on comprend rien, qu'est-ce qui se passe ?» Et je sais qu'il y a un moment où tous on a eu un déclic. Mais on ne l'a pas tous eu en même temps. Et on était nombreux quand même, hein, 14.
Vous êtes 14 sur scène.
Et à partir du moment où on a le déclic, on se passionne pour ce texte et il y a vraiment des choses magnifiques à l'intérieur. Et pas forcément rattachées à un contexte historique particulier, plutôt justement qu'on ressent très actuel aussi.
Alors justement, ouais. Comment tu peux le ressentir, ce texte, de manière actuelle?
C'est la notion, c'est la crise, voilà. Et puis finalement, il y a un contexte qui sert de support à des discours, et ces discours-là, ils transcendent, quoi. On peut les entendre à tout moment. La première partie de la pièce est plus technique, on a beaucoup de faits, de choses comme ça. Et plus ça va, et plus il y a une progression vers des idées, des slogans. Et même si on ne comprend pas tout, finalement, ce n'est pas ce qui importe. Il y a des moments, des phrases qui vont nous frapper. Et c'est vraiment comme une petite décharge dans le cerveau. On se dit « waouh, ça... quelque part, je le savais, mais je ne l'aurais jamais dit comme ça. Et là, je viens de le découvrir ou de le redécouvrir. Et ça, c'est super. » Et du coup, ce texte, moi, je l'aime beaucoup maintenant. Alors qu'au début, j'étais assez sceptique. Ça faisait un peu peur. Parce que c'est un atelier, on est tous amateurs. On arrive, on se dit, ouais, on va faire ça le lundi soir, 3h, super, la détente, cool, machin. Et puis non, blanc, la crise, les abattoirs, la bourse.
Et d'ailleurs, Antoine, c'est particulier d'avoir choisi un texte comme ça, d'une telle envergure textuelle et d'une telle complexité, même historique, hein, moi je trouve, au niveau du déroulement de l'histoire, pour la transmettre à un groupe d'élèves amateurs en théâtre.
Ben, les étudiants, en tout cas le groupe étudiant qu'on a pour le coup, s'y morflent chaque année. L'année dernière, on leur avait trouvé un texte de Paul Claudel, Le repos du septième jour, qui durait 3 heures aussi, le spectacle durait plus de 3 heures et demie. Et, le texte était encore plus compliqué que celui de Brecht, parce que vraiment là, c'était l'écriture de Claudel assez hallucinante, sur des morts vivants, des zombies, enfin... Un truc, pour être vulgaire, imbranlable. Mais c'est ça qui nous passionne aussi, plutôt que de s'engager sur une pièce toute formatée, toute faite, où on comprend tout au début. Nous, ce qui nous intéresse avec Virgile, c'est de travailler avec les étudiants. C'est pas de faire travailler les étudiants, mais c'est de travailler avec ce qu'ils sont et comment le groupe va se former tout au long de l'année. C'est ça qu'on veut présenter sur un plateau. C'est pas d'arriver avec notre savoir-faire et dire on va vous apprendre le théâtre, ça n'a aucun sens. Mais c'est plutôt de trouver des textes comme ça qui vont être, pour nous, matière à réflexion, à débat et à répondre à des enjeux théâtraux comme ça et savoir ce qu'on va présenter. Et là, c'est vrai que c'était l'aventure qui nous plaisait, quoi, de mettre 14 étudiants qui ne se connaissent absolument pas sur un plateau en leur disant bah, « maintenant, vous allez tous être soudés parce que vous allez représenter des groupes de travailleurs, vous allez représenter la religion, vous allez représenter enfin que des trucs... vraiment difficile, porter la parole d'une religieuse, porter la parole d'un rouge très syndicaliste, enfin, voilà, sans savoir de quel bord on était politiquement. Et dès le début, ça a été un peu, oui, il faut être convaincu, il faut être convaincu de tout. Et puis après, petit à petit, les choses se mettent en place, on a morcelé la pièce, comme le disait très bien Léna. Des fois, c'est une phrase qui donne toute la tonalité d'une scène. Et puis après, il y a ce travail vraiment de jeu qui sont au plus proche du naturel, quoi. Et surtout, pas d'accélération outre mesure. C'est-à-dire, c'est pas parce que le texte est long qu'on va accélérer. Là, je pense qu'ils vont le rejouer encore 5 fois. Je pense qu'on va gagner une demi-heure à peu près.
Parce que là, la pièce dure 3 heures. Hein. En tout cas, hier, elle durait 3 heures.
Oui.
D'un texte dur, lourd et harassant, c'est pas facile hein, de faire jouer ça à des élèves. Moi, je reste vraiment sur ça. Et je voulais te demander d'ailleurs comment tu le transmets, par quels exercices. Quel est ton travail que tu effectues avec ces étudiants-là, puisqu'il y a une multiplicité des points de vue qui est fortement visible sur le plateau, que ce soit de manière scénique, c'est-à-dire spatiale, autant de manière, autant qu'il n'y a pas de personnage type hein, que les étudiants investissent et incarnent des personnages tour à tour.
La base du travail, c'est ce qu'on essayait d'expliquer un petit peu au début de l'année avec Virgile, mais on se fait des fois pas très bien comprendre. Mais la base du travail, c'est vraiment sur la circulation d'état. C'est-à-dire, on prend pas du tout le personnage au sens psychologique du terme, mais plutôt à tel moment, dans quel état il est et comment on va joindre ces états les uns après les autres. Donc, les Jeanne, par exemple, se passent un fichu, elles changent, tout fluctue sur le plateau tout le temps, comme le cours de la bourse. Donc, tout bouge en permanence. Ce qui nous importe, c'est comment le texte va être prononcé et à quel moment. Par qui il va être prononcé, ça nous importe de l'intérieur, pour savoir sur le plateau, la logique du plateau nous importe, mais il n'y a surtout pas de caractère psychologique, de personnage psychologique, c'est qui fait quoi sur le plateau, à quel moment, et à partir de là, on distribue un peu le texte. Le texte a été terminé d'être distribué juste avant le spectacle, il y avait encore des didascalies qui traînaient. On n'était pas tous d'accord. Des fois, ça se battait en disant « Non, cette phrase-là, c'est moi qui l'ai. » Ah bon ? Plus personne n'avait de réponse. Donc, jusqu'au dernier moment, on continuait de distribuer le texte. Et voilà, pour maintenir la chose en éveil, ce n'est pas du tout une compagnie professionnelle. Donc, ça nous permet, le Crous nous offre en tout cas un véritable espace de liberté où on peut faire des choses qui ne soient pas standardisées, où on peut prendre vraiment des risques. Et c'est ça, avec Virgile, qu'on apprécie vraiment, c'est d'avoir cet espace vraiment de liberté de création où on n'est pas tenu par vent, diffuser le spectacle, on peut vraiment prendre des vrais risques. Et ce texte, c'était vraiment une prise de risque. Et voilà, et on est très heureux, je crois.
Je m'adresse aux heureux étudiants. Vous avez l'impression de prendre quel risque sur plateau ?
Je pense qu'on doit interpréter les choses comme on les sent. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, on n'interprète pas forcément des personnages sur toute la pièce. Donc du coup, après, à nous de réagir sur ce qui se dit et comme on sent, voilà. Et d'interpréter les choses avec comme on les voit, c'est-à-dire comme on les voit dans la vie et sur le plateau, qui sont deux choses qui se rejoignent à mon avis.
C'est-à-dire entre la position de personnage à l'intérieur de cette pièce, sans ajouter le côté psychologique hein, du personnage, juste la position de personnage, j'incarne une parole, et ta position à toi, peut-être toi aujourd'hui sur ce plateau-là, enfin, il y a une espèce d'aller-retour entre ces deux pôles, je crois, ce qui est aussi un des principaux axes de la compagnie Prime Sautier. si je ne me trompe pas.
Oui.
Non, mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, Julia, sur comment on fait beaucoup d'exercices au début de l'année, disons que nous, notre intérêt, c'est de préparer tout le groupe à pouvoir vivre sur le plateau quelque chose d'assez tranquille, à pouvoir... à ce qu'ils soient sur le plateau comme à la maison, chez eux, et pas rentrer dans une dynamique de « on est sur un plateau, il faut représenter quelque chose ». Alors, il y a toujours ce stress-là, mais nous, on a pas mal d'exercices qui durent longtemps, que ce soit une heure, des choses où on les met comme ça en condition pour pouvoir juste des interactions très simples. Quoi. Tu me cries dessus, comment je te réponds ? Des choses comme ça qui... Donc, A.
Le A.
Le A. Dans le micro, je parle. Donc voilà, donc il y a beaucoup de temps préparatoire qui n'est pas directement lié à la pièce. C'est pour ça qu'on est toujours très en retard sur les pièces. Le temps de faire la distribution aussi, on leur a beaucoup fait confiance. C'est-à-dire qu'on cherche à ce qu'ils aient une énorme part d'autonomie sur le plateau. Leur jeu, on y touche très peu. C'est-à-dire, on fait la mise en scène, on crée les images, les tableaux. À l'intérieur de ça, on leur demande de se démerder.
Alors, quel est le risque de ça ?
Bah que ce soit sans intérêt. Mais au bout d'un moment, il y a toujours un déclic. C'est-à-dire, je crois que le cerveau humain est fait comme ça. C'est-à-dire, tu poses quelqu'un dans une situation et il y a des codes au théâtre. Et au bout d'un moment, ils cherchent par eux-mêmes et ils commencent à travailler tout seuls et ils trouvent énormément de choses. Ils font une grande partie du boulot, ils s'autonomisent vraiment. Et après, avec Virgile, on règle. Mais c'est surtout, nous, on s'intéresse beaucoup à la mise en scène et eux, ils se débrouillent avec leur jeu. Comment ils ont envie de dire ? La vraie question, c'est comment ils ont envie de représenter cette parole ?
Mais je crois que pour nous, le risque, c'était, en tant qu'acteur, au moment de la représentation, de se dire, bon, bah, maintenant, c'est moi qui décide. Bon, les metteurs en scène m'ont dit de faire ça, tout ça, mais finalement, est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je vais le faire, ce qu'ils m'ont demandé de faire ? Ou est-ce que je ne vais pas, sur le moment, faire ce que j'ai envie de faire ? Et finalement, se dire, oui, mais est-ce que je ne décrédibilise pas un texte qui est déjà magnifique et déjà... Pour moi, le risque, c'était vraiment... De faire perdre de sa valeur au texte, oui. Alors qu'il est déjà hyper dense. Et... Donc, réussir à transmettre tout ce qu'il y a à transmettre. Oui. Et il y en a vraiment sens, énormément, quoi. Oui. Oui.
Ouais. Pas perdre le fil.
Parce qu'on peut s'arrêter sur tellement de choses que...
Et d'ailleurs, tu parlais de la mise en scène, Antoine. La mise en scène, non. Je rappelle aussi que Brecht est un auteur qui a fait naître un concept théâtral bien connu de certains, qui est la distanciation, n'est-ce pas ? Où il est dit que le spectateur doit se distancier de l'histoire qui lui est contée et narrée sous les yeux, afin de ne pas prendre parti de manière émotionnelle à ce qui se passe sous ses yeux, mais de voir la chose de manière un peu plus objective et technique. Par là, je vous te demande à toi, Antoine, et vous, comment vous l'avez vécu également, quels sont les procédés de distanciation au niveau de la mise en scène que vous avez mis en place et qui sont nés aussi par vous-même, étudiants ? Vous, étudiants, j'aime bien dire ça, je trouve ça sympathique.
Vous y allez ou... du point de vue, en tout cas, voilà, pour nous, du point de vue de la mise en scène, en tout cas, ce qui est sûr, c'est en multipliant les points de vue, c'est essayer de trouver des choses qui se télescopent entre elles, des images qui... c'est très compliqué ta question, Julia.
Je sais pas, par exemple, moi je voyais la présence de cœur sur scène, oui. Hein, le cœur qui est quelque chose de très marquant, un principe de scénique très marquant pour Brecht pour situer la distanciation, donc le cœur qui va un peu reprendre l'action qui est en cours devant les yeux en la chantant, par exemple. Il y en a beaucoup des cœurs, il y a notamment un violoncelle, une guitare et un synthé. D'ailleurs j'ai deux musiciens devant moi là, à côté de moi.
Et un violon.
Et de nombreux apartés, donc voilà.
Oui, voilà, il y a plein. Donc il y a des principes qui sont contenus dans le texte, évidemment, voilà, sur les chansons, enfin vraiment dans la narration propre au texte de Brecht. Après, effectivement, pour nous, le truc, c'est d'avoir tout le monde tout le temps sur le plateau, pas d'entrée, pas de sortie. Donc forcément, quand il y a des scènes où il y en a que deux qui jouent, ça pose tout de suite le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait autour de ça. Donc le fait d'avoir un groupe comme ça qui vit en permanence sur le plateau, ça aide aussi à créer un peu de distance. Ensuite, c'est ne jamais coller complètement à l'action qui est en train de se dire. C'est-à-dire si le texte étant déjà un langage, la mise en scène étant un autre langage, le jeu des acteurs et leur logique étant un troisième langage, le but, c'est comme ça d'hybrider tous ces langages pour faire quelque chose d'assez fluide comme ça, mais de jamais être complètement que dans l'action. C'est-à-dire de pouvoir toujours porter un regard, justement, eux portent un regard sur ce qu'ils sont en train de faire, sur beaucoup d'écoute, sur ce qui est en train de se dire. Donc quand il y en a qui jouent et qui sont dans l'action, les autres autour relaient l'information qu'ils sont en train d'entendre vers le public. Et ça crée comme ça quelque chose qui a l'air tout simple, à la fois très long, mais en même temps tout simple, qui semble se faire émerger comme ça sous les yeux du spectateur, qui tremble un petit peu aussi parce que on fait en sorte que ça... Bon, déjà, c'est vraiment pas complètement fini, donc ça, c'est bien. Il y a le côté performatif du théâtre qu'on cherche à garder. Et puis, comme ça, on tremble pour des choses qui sont pas forcément... on se dit, ah, est-ce que là, il y a un blanc? Est-ce qu'il est normal? Enfin, voilà. Et du coup, ça garde comme ça un peu le spectateur en éveil sur des choses. Et le spectateur, lui, est invité à réfléchir en disant, mais pourquoi on me propose cette image? Pourquoi on me regarde comme ça? Pourquoi, à ce moment-là, on me parle comme ça? Qu'est-ce que c'est que ces jeux qui semblent jamais s'élever? Enfin, voilà, on essaye de proposer comme ça quelque chose qui permet vraiment au spectateur de vaquer à ses occupations cérébrales pendant la pièce. On réclame pas de lui, en tout cas on fait en sorte de pas réclamer de lui une attention
continue,
même si de la part du spectateur on en propose tellement, il y en a tellement que ça bouge dans tous les coins que lui se raccroche à ses morceaux. Oui. Mais c'est justement cette construction qu'on lui propose de faire.
Le temps nous est compté et le sablier doucement, 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 doucement s'éteint. On va donc finir cette interview. Je vais donc rappeler les dates de Sainte-Jeanne des Abattoirs. Vous jouez ce soir et également aide-moi Antoine.
Eh ben après-demain.
Et également après-demain au Trioletto.
Au Trioletto et puis après on enchaîne sur...
Demain, c'est demain au Trioletto.
Ah oui, je me croyais hier.
Donc vous jouez ce soir et demain au Trioletto, oui. Également lors de la semaine de L'Erreur est humaine, une semaine organisée par le Prime Sautier Théâtre. L'Erreur est humaine, titre constant,
n'est-ce pas,
depuis 2 ans déjà.
Quatre ans maintenant, du RIF.
Que le temps passe vite. Du 17 au 23 mai au lycée Frédéric Bazille, voilà. À Acropolis.
Et il y aura 4 pièces de Brecht à découvrir puisque la compagnie travaille sur La vie de Galilée de Bertolt Brecht pour 2-3 ans encore. Donc les ateliers travaillent aussi autour de Brecht et donc il y aura 4 textes de Brecht pendant cette semaine.
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le MySpace du Prime Sautier Théâtre, www.myspace.com/Prime Sautier Théâtre, tout attaché. Merci beaucoup à vous tous.
Mais merci.
À
toi.
<bientôt. rire>
صرار كلامة إيه حيراء الغار وليدات نصاب وبيض الحمامة سبحان الله من هنا سيجي وابتها للامة سلام عليكم هادو خياتي تسعى إقامة انظروا مقامي مولاي محمد يا زين العمامة ومريم ويا دنيا رجع في الله يا الوالي يا مدنيا ارجف الله
مريم
أرجف الله
مريم ويا الدنيا أرجف الله يا الوالي مريم ويا الدنيا أرجف الله
السلام عليكم أدوخيتي تسعي قمر
الله الله
سلام عليكم أدوخيتي تسعي قمر
الله الله
انظروا مقامي مولاي محمد يزين العمامة
الله الله
صلاة على نبينا سيدي يا آل الكرامة
الله الله
الشوم صحراوي فيا والهون دركة علامة
الله الله
بلا تشكي يما يما يا ربي سلامة
الله الله
بلا ترخي يما يما يا ربي سلامة
الله الله
بل يا سيدي تصفى القلوب والنفس اللوامة
الله الله
بل يا سيدي يا سيدي تصفى القلوب والنفس اللوامة
الله الله
بل يا سيدي الدنيا غرر شيطان العلماء
الله الله
بل يا سيدي الدنيا غرر شيطان العلماء
الله الله
يا كلمو من مصاب وخيار تدبير ورحمة مولانا
الله الله
المؤمن مصاب وخيار تدبير ورحمة مولانا
الله الله
صلى نبينا
الله الله
يا محمد سيدي
الله الله
زيني العمامة
الله الله
يا ربي سلامة
الله الله
مريم ومريم
الله الله
يا لالا مريم
الله الله
صلى نبينا
الله الله
من يمكن جينا
الله الله
مريم ومريم
الله الله
مريم مريم
الله الله
صلى نبينا
الله الله
يا محمد سيدي
الله الله
بيجيني العمامة
الله
انا احب سبني
الله
ربي سلامة.
Et en deuxième partie de ce Tous au poste, nous allons parler eh bien, de la cinquième rencontre des arts du monde arabe, puisque c'est le festival arabesque en la personne de Habib Dehraoui que je reçois. C'est bien comme ça, j'écorche pas votre nom.
Un petit peu, c'est allez. Dehraoui.
Dehraoui. Et donc ce festival arabesque qui commence eh bien, le 21 et qui se poursuit jusqu'au 23 mai 2010 au Domaine d'eau, comme toutes les années. Alors c'est la cinquième édition et de cinq, hein, ça témoigne vraiment d'un intérêt public en tout cas pour les musiques maghrébo-orientales qui rencontraient il y a quelques années des difficultés de diffusion hein, sur les ondes nationales, on peut le noter quand même. Et donc il y a cette nouvelle génération qui est émergente, qui a continué à faire vivre cette culture musicale. Je pense par exemple à Idir que vous programmez d'ailleurs dans cette édition 2010.
Tout à fait.
Et puis également à Marcel Khalife qui lui est ce virtuose libanais du oud qu'on connaît bien. Et Nas El Guiwane qui sont à peu près les Rolling Stones de l'Afrique quoi. Si on peut dire
ah
ça.
Ouais, les deuxièmes Rolling Stones du monde. Non, ouais, oui, c'est un peu les avant-gardistes de la musique marocaine, les Rolling Stones de l'Afrique. C'est une belle définition. Trouvée par Rabat d'ailleurs, Rabat Mezouane.
Ouais. Rabat Mezouane qui est journaliste et critique et qui est également chargé de programmation pour l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Tout à fait.
Et donc cette nouvelle génération émergente hein, qui a continué à faire vivre cette culture, ça semblait indispensable de la diffuser, de créer un festival dans ce sens-là.
Oui, c'est-à-dire un festival consacré exclusivement aux arts du monde arabe et à l'influence ou en tout cas à toutes les rencontres musicales entre la musique arabe et la musique occidentale. C'est oui, un festival, je pense, en tout cas... je pense que c'est un festival qui avait toute sa place et encore plus à Montpellier, de par sa situation géographique et de tout ce que le bassin méditerranéen a pu apporter. Donc oui.
Et puis ça témoigne d'une programmation assez éclectique hein, d'année en année. Aujourd'hui, eh bien, on se trouve face à une programmation avec des têtes d'affiche assez énormes. Je parle d'Idir, par exemple, entre autres, hein, bien sûr. Mais également, beaucoup, ce n'est pas que le contexte musical qui nous est proposé, mais également le patrimoine culturel du Maghreb avec des tables rondes, des contes, de la danse orientale, de la calligraphie. Est-ce que vous pouvez faire un petit tour comme ça de pistes?
Oui, alors juste une petite rectification, c'est pas que du Maghreb, c'est du monde arabe. Et pour moi, la différence, elle est quand même extrêmement importante. Parce que on peut pas. Après, bon, c'est parce qu'on ça revient un peu systématiquement, oui. C'est qu'on peut pas limiter le monde arabe au Maghreb, fort heureusement. Alors oui, pourquoi ? Il y a des Libanais, des Irakiens, il y a des Syriens, il y a des Égyptiennes, il y a beaucoup de. C'est vraiment les arts du monde arabe et beaucoup de Franco-Marocains, Franco-Algériens. C'est un peu tout ce métissage-là qui serait un petit peu mis en lumière pendant la manifestation arabesque. Alors parler oui, et il y a les, on va dire les grandes et belles têtes d'affiche, Marcel Khalife, qui est un véritable événement, parce que Marcel Khalife est un très grand joueur de oud, mais surtout le plus grand interprète des chansons, des poèmes de Mahmoud Darwish. Et c'est pas rien. Alors ces deux grandes personnalités, hein, Mahmoud Darwish et Marcel Khalife. Marcel Khalife extrêmement populaire par ses engagements politiques, par sa carrière musicale extraordinaire, par ses concerts qui donnent dans le monde entier. Et je crois que la France est un des pays où il donne le moins de concerts. Donc c'est dire l'importance de l'avoir avec nous sur cette édition. Ça fait 2-3 ans qu'on est déjà en négociation. On est content de l'accueillir. Kamel Harachi, le fils du regretté d'Ahmel Harachi, d'Ahmel Harachi qui avait entre autres écrit et interprété Yaraïh, repris brillamment par Ashita. Et donc là, c'est pareil, c'est un vrai coup de cœur de l'avoir. Il viendra présenter son album, un très très bel album qui vient de sortir, et je crois qu'on en écoutera un petit titre tout à l'heure. Et donc c'est vraiment deux générations d'artistes. Le lendemain, Hassan al-Bechariya, grand respect pour Hassan al-Bechariya, cet artiste du sud algérien, d'un père marocain, d'une mère algérienne. Donc vous voyez, c'est un peu elle a apporté un petit, c'est la seule à ma connaissance et officiellement en tout cas chanteuse de musique gnaouia, en tout cas d'interprète de musique gnaouia. C'est une femme, parce que généralement c'était un monde d'hommes, et là elle est venue bousculer un petit peu les idées reçues sur ça, et voilà, super coup de cœur aussi, pareil.
Connue sous le nom de la blueswoman des sables.
Bah ouais, avec une voix extraordinaire. C'est une daronne, quoi. C'est une dame, donc c'est grand respect. Et après, elle partagera donc l'affiche avec Idir, qui revient pour la deuxième fois, parce qu'on l'avait accueilli pour la première édition, parce qu'il avait remplacé au pied levé une autre grande dame regrettée, Cheikh Harimiti, qui faisait un grand retour au Cheikh Harimiti, notamment sur Arabesque, qui était décédé un mois avant. Et Idir l'avait gentiment remplacé au pied levé, en reportant même un des concerts qu'il donnait à Barcelone. Donc on est content en tout cas de le réinviter, et on lui avait promis, on lui a dit si on atteint la cinquième édition, on t'invitera, et c'est fait. Donc on est content de l'accueillir, et en plus il est très 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 content de venir, donc ça va. Le lendemain, on reste toujours dans le domaine des concerts, hein, mais le lendemain, Indy Zara, qui est une amie que je suis vraiment content d'accueillir aussi, qui va partager l'affiche avec le plus grand groupe mythique, en tout cas du Maroc, donc Nassel Riwan, et elle disait qu'elle était plus fière de jouer avec Nassel Riwan que de venir jouer elle-même. Donc c'est quand même, c'est un honneur, parce que c'est même pour elle, c'est un honneur de jouer avec Nassel Riwan et d'ouvrir un petit peu le concert, de faire la fermeture, parce que Nassel Riwan fera la fermeture du festival arabesque. Mais vous l'avez précisé, Julia, arabesque, ce n'est pas que les concerts, c'est aussi les expositions. Et ça commence d'ailleurs dès le lundi avec une projection au cinéma Diagonale. Donc des courts-métrages sur les mille et une nuits. Alors cinq très très beaux courts-métrages sur les mille et une nuits. Dès le mardi, première exposition avec un Irakien, donc Hassan Massoudi, le grand calligraphe, un des plus grands calligraphes au monde, qui vernissage donc dès le mardi au Théâtre d'Eau, et cette exposition durera 15 jours. Le mercredi, il y aura une autre exposition à la Galerie Transit, partenaire donc du Festival Arabesque, comme le cinéma Diagonal, avec une exposition d'Algo sur les Gnawa, donc un travail qu'il a fait pendant quelques années, un vrai travail sur les Gnawa, de photographie. il a vraiment vécu avec eux, Algérie, Tunisie, Maroc. Et la culture gnaouia n'est pas la même chose entre le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. J'allais dire, elle est vraiment perçue différemment. Et je crois que cette exposition qu'on présentera à la Galerie Transit dès 18h est une très belle exposition. Et en plus, elle sera accompagnée par des vrais gnaouis qui seront là et qui commenceront les déambulations le mercredi, mais c'est le jeudi, je me suis trompé. J'ai pas le programme sous les yeux.
Le jeudi 20 mai à 18h30.
Le mercredi, il y aura la projection du film Trans. Ouais. Donc sur les gnaouis aussi, avec Isa Ginini, la productrice du film, qui fera le déplacement spécialement de Cannes, puisqu'elle présente aussi un film à Cannes là, cette année. En tout cas, elle sera là-bas et elle soutient, parce qu'elle a produit des films qui seront présentés à Cannes, et elle viendra exprès à Arabesque pour venir parler de cette grande aventure qu'est le film Trans, dont Nassel Riwan ont assuré aussi la musique. Et ça raconte aussi un peu l'histoire de Nassel Riwan, cette musique envoûtante qu'est la musique gnaouia.
Spirituelle.
Ah oui, complètement. Au même titre que pour moi, hein, que le blues, ou que ce qu'a été le blues au début, le jazz aussi. Quoi. Donc voilà.
D'ailleurs, il y a un grand festival de musique gnawa, je le rappelle, au Maroc, tous les étés, à Essaouira. Voilà,
qui est ma ville à moitié.
Tu peux bien en parler alors. Ouais. Et donc, il y a également des contes qui sont aussi programmés, de la danse orientale, des ateliers de Derbouka avec Imed Albi, des tables rondes qui sont suivies à chaque fois de projections, hein, tu en as un peu parlé là.
Tout à fait.
C'est donc vraiment une programmation complète. Il y a également aussi deux spectacles qui sont offerts au spectacle jeune public, enfin au public jeune, hein, au scolaire, le bol de grenade et mémoire de la rose qui se déroule tous les deux le 21 mai au Théâtre d'Eau.
Ouais. Alors juste une précision pour le bol de grenade, en fait c'est un spectacle qui est monté spécialement pour le festival. C'est un travail qu'a effectué une classe du collège des Escoliers de la Mosson, la classe de 4e 6 je crois, si ma mémoire est bonne, ouais, des Escoliers de la Mosson, et c'est mis en scène par Ali Mergache qui vient depuis plus de 7-8 mois faire des interventions régulièrement. Donc il vient de Paris, Ali Mergache qui est conteur, qui est musicien, qui est metteur en scène, et le bol de grenade c'est une restitution du travail de l'action scolaire
que vous avez mené toute l'année
exactement, et qu'on mène, et qui s'inscrit dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle la Caravane Arabesque justement, et donc la Caravane Arabesque qui s'arrêtera au Festival Arabesque. Et donc ça, c'est la deuxième année consécutive où on fait un vrai travail de création avec ces classes, avec différentes classes de la Payade. On a du mal à dire la Mosson, mais c'est la Payade, c'est bel et bien la Payade. Et voilà, donc et ça, c'est une belle restitution. Et on a invité donc d'autres collèges à venir voir un petit peu ce travail-là. Et en même temps, on a offert à un collège donc, un spectacle de la compagnie Tintamar. Donc voilà, c'est un peu notre manière à nous de sensibiliser aux arts du monde arabe aussi à travers l'action scolaire et
pas seulement ponctuellement.
Ouais, tout à fait.
Vous êtes donc, enfin, c'est quand même un programme, je le disais, assez complet, hein, de par ces animations qui proposent des activités, les concerts, les publics différents que ça peut toucher. Vous représentez, si je peux dire ainsi, la vitrine des arts du monde arabe à Montpellier. Comment s'est reçu ce festival par la ville ?
Par la ville, alors vous parlez de la ville politiquement ou par les habitants de la ville ?
Ah, les habitants de la ville, je me fais aucun souci puisque vous bénéficiez d'un public dense chaque année et je suis bien placée pour le savoir puisque je m'y rends. Mais après, de la ville...
De la ville de Montpellier ? Oh, la ville de Montpellier, on aimerait qu'ils soient un peu plus présents, mais ils viendront peut-être un peu plus chaque année. Voilà, donc on aimerait bien qu'ils soient un peu plus présents, c'est... Voilà. Après,
Est-ce que vous avez quand même des têtes d'affiches incroyables ?
Des têtes d'affiches incroyables, mais je crois que notre plus grande locomotive un peu du festival, c'est d'abord ces artistes-là, parce que c'est eux qui font la promotion du festival à travers le monde. Je rappelle qu'Arabesque est la première rencontre dédiée aux arts du monde arabe en Europe, pas qu'à Montpellier ou régional. Donc c'est pas nous qui le disons, donc on peut en parler avec beaucoup d'aisance, quoi. C'est l'Institut du monde arabe qui nous l'a dit. Que le festival est reconnu parmi les plus grands festivals des musiques du monde à travers le monde maintenant, parce qu'on est invité quand même dans la plupart de ces gros festivals, et qu'Arabesque a une vraie reconnaissance, et que ce festival se passe à Montpellier. Donc c'est une vitrine pour Montpellier. Donc après, comprendra ce qu'on voudra.
En tout cas, vous êtes accueillis pour la cinquième année consécutive au Domaine d'Eau. Et vous y êtes bien, j'imagine. Hein,
dans au ce Domaine d'Eau, ouais, mais moi, je ne manque jamais de rappeler, mais Arabesque, ça a été pensé au Domaine d'Eau. Je veux dire, c'est une véritable alchimie avec le Domaine d'Eau. C'est-à-dire, quand on a décidé, quand on a monté le projet, dire on veut monter ce festival, on ne l'a pas pensé ailleurs, on l'a pensé au Domaine d'Eau. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a des actions en parallèle qui se font, et au Quorum, qui se font en centre-ville, des déambulations, il y a des expositions un peu partout.
Mais il est né là-bas.
Et j'espère qu'il restera là-bas.
Bon, mais j'espère aussi. En tout cas, 21, 22, 23 mai, soyez présents. C'est donc au Domaine d'Eau, le festival arabesque. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site que tu vas citer tout de suite, Habib.
Alors, www.festivalarabesque.fr ou www.unisson.fr. Un numéro de téléphone 04 99 77 00 17.
Bravo.
Voilà.
Ok, c'est transmis, c'est entendu. Merci beaucoup, Habib, d'être venu parler de ce festival.
Merci à Divergence, en tout cas, qui sont là depuis le début. Et voilà.
Longue vie à vous. Hein.
Longue vie à Divergence et à nous, ouais, bien sûr. Comme à toi, là-bas.
Un petit peu de son, d'ailleurs, Bruno, tu nous envoies un petit peu de son, coupé avec du générique, on va dire.
Allez, c'est parti.
Arabe. Il faudra songer un générique de musique arabe pour Divergence FM, ça vous fait fortement secouer les épaules. À suivre sur le 93.9 après ce magnifique Tous au poste bordé de théâtre et de musique du monde arabe, eh bien vous le retrouverez en rediffusion à 17h. Soyez au rendez-vous, 17h10 très précisément, à 17h c'est le rendez-vous avec l'information internationale. Je remercie Bruno Bertrand qui était derrière les petits boutons et qui a excellé aujourd'hui d'une manière incroyable. C'était Julia Chamadon au micro. À suivre sur le 93.9, j'y reviens. L'hebdo du Sherpa sera là pour vous emmener loin, très loin, c'est à 18h. Adèle Divol du collectif Atome viendra vous parler de son actualité théâtrale. Et puis voilà, hein, je ne vais pas non plus vous annoncer tous les programmes jusqu'à minuit, sinon on est encore là pendant une heure. A très bientôt, je vous souhaite une magnifique après-midi pluvieuse sous la couette ou partout sur Divergence FM.